Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Les conditions météo de cet été ont favorisé l'apparition précoce des champignons et donc de leur cueillette. De nombreuses intoxications liées à leur consommation ont déjà été observées. Cet été, 330 cas d'intoxication liés à la consommation de champignons ont été rapportés au centre antipoison en France et 3 décès ont été répertoriés. Les raisons de ces intoxications sont multiples. Confusion entre deux espèces, consommation de champignons comestibles mais mal cuits ou en mauvais état. Dans ce cas, les symptômes observés étaient essentiellement digestifs, douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées. Un rappel des bonnes conduites de ramassage et de consommation s'impose. Question de bon sens, ramassez uniquement les champignons que vous connaissez parfaitement. Certains champignons hautement toxiques ressemblent beaucoup aux espèces comestibles. Au moindre doute sur l'état ou l'identification d'un des champignons récoltés, ne consommez pas votre récolte avant de l'avoir faite contrôler par un spécialiste en la matière. Cueillez uniquement les spécimens en bon état et prélevez la totalité du champignon, pied et chapeau. Séparez bien les espèces de champignons pour éviter le mélange de morceaux vénéneux avec des champignons comestibles. Déposez les champignons dans une caisse, un carton ou un panier, mais jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement. Consommez les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante, 20 à 30 minutes à la poêle ou 15 minutes à l'eau bouillante, et ne consommez jamais des champignons sauvages crus. N'en donnez pas de jeunes enfants, et enfin ne consommez pas de champignons identifiés au seul moyen d'une application de reconnaissance de champignons sur smartphone, en raison du risque élevé d'erreur.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Chaque été, c'est la même chose. Les personnes souffrant d'acné voient l'état de leur peau s'améliorer avant qu'une nouvelle poussée ne se manifeste au moment de la rentrée. Un phénomène connu sous le nom d'effet rebond. Concernant l'acné, le soleil est un faux ami. Il est vrai qu'après les vacances d'été, l'on croit que l'acné a disparu comme par miracle, mais ce n'est qu'une impression. En fait, les UV ont tendance à épaissir la peau. Le sébum est bloqué, la peau est plus sèche et empêche les boutons de sortir. Mais une fois que le bronzage commence à partir, la peau retrouve son épaisseur normale, l'excès de sébum ressort et l'acné revient, rebondit. Pour contrer cette résurgence de l'acné, la protection solaire est une arme de choix. Donc sur la plage ou l'hiver sur les pistes, c'est protection maximale. Par ailleurs, la plupart des traitements contre l'acné et le soleil font rarement bon ménage. Comme le souligne le Syndicat national des dermatologues et vénérologues, si un traitement a été prescrit par le dermato avant le départ en vacances et qu'il a été suspendu ou remplacé par des traitements non photosensibilisants, il faut rapidement le reprendre sans attendre la poussée qui peut être en plus majorée par le stress de la rentrée. Et si aucun traitement n'a été jusqu'à présent prescrit, vous trouverez en parapharmacie des produits de soins qui permettront d'attendre le rendez-vous chez notre dermatologue. Certains comportements sont en revanche à proscrire. Presser ou triturer les boutons, qui pourraient être source de marques et de cicatrices indélébiles. Faire des UV pour sécher les boutons. Enfin, le maquillage permet de camoufler les boutons. Il faut toutefois utiliser des produits adaptés, non comédogènes, et surtout se démaquiller avec précaution le soir. Il faut également privilégier les poudres plutôt que les compacts.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
À propos, pour éduquer moins bête.
À propos, saviez-vous que le plus important, c'est la solution ? La solution ? La solution à quoi ? Pourquoi ? Oui, reprenons depuis le début. Avez-vous remarqué combien on se focalise le plus souvent sur le problème, la crispation ? L'enfant qui fait une crise en plein magasin, l'adolescent qui nous parle mal devant nos voisins, ou encore ma sidération dans le train quand mon bébé crie à tue-tête. Ainsi bloqués sur la situation critique, nous nous laissons envahir par la colère, la tristesse, l'agacement, la honte ou encore la lassitude. Notre réaction est alors primaire, c'est-à-dire qu'elle est la résultante instinctive de notre cerveau archaïque et limbique. Et alors, nous crions à notre tour, nous nous sentons ridiculisés par notre enfant, jugés par les spectateurs de la scène, incompétents, mauvais parents et j'en passe. Bref, autant de fausses vérités que nous nous sommes construits sur nous-mêmes ou sur l'autre, notre enfant ou notre ado. Or, il s'agit ici de se décentrer de la situation directe. Il s'agit de prendre de la hauteur. Plutôt que de voir un enfant qui se roule par terre en plein supermarché, je réalise qu'il est 18h, que la journée a été longue pour lui comme pour moi, qu'il règne une grande agitation dans ce magasin ainsi qu'un niveau sonore important, que la faim nous tenaille et que surtout mon tout petit souhaite m'avoir pour lui seul après une grosse journée loin de moi et qu'un gros câlin lui ferait si plaisir plutôt qu'une maman agitée et speed. Plutôt que de voir un ado qui me parle de travers, avec sa voix qui mue dans les aigus, je réalise qu'il a beaucoup grandi ces derniers mois, qu'il se trouve moche avec son acné et ce semblant de barbichette, que sa petite copine l'a plaqué, et que son corps en mutation, ses neurones en réorganisation, le mettent en ébullition. Enfin, plutôt que de me morfondre, de voir mon bébé pleurer en crescendo dans le train, je réalise qu'il fait chaud, qu'il est très couvert, qu'il a peut-être soif et qu'il se sent coincé dans cette poussette pris en étau par une foule entassée. Ainsi décrite, la situation change complètement de perspective, n'est-ce pas? L'enfant n'est plus capricieux, l'ado n'est plus impertinent et le bébé n'est plus pleurnichard. En prenant de la hauteur, notre regard change et automatiquement notre réaction est différente. Car dans ce processus, c'est notre troisième cerveau, le cortex, qui a pris le relais. Alors que les deux premiers offrent des réponses automatiques et stéréotypées, le cortex permet l'analyse et la réflexion. Et ainsi, nous trouvons une solution bien différente pour gérer la situation problématique. En plein magasin, nous nous agenouillons devant notre enfant et le prenons dans nos bras, à la fois pour le calmer et le rassurer. Lui dire que nous comprenons sa fatigue et que nous aussi nous avons hâte de rentrer à la maison. Face à notre ado, nous décidons de rester calmes et de le laisser vider sa frustration et son trop-plein d'émotions. Nous lui manifestons une écoute attentive et surtout de la disponibilité. Dans le train, Nous prendrons le bébé tout en lui ôtant son bonnet, son blouson et son cache-colle. En bref, la crise nous indique un besoin et ne doit donc pas être une fin en soi. Apprenons à voir au-delà et la solution apparaîtra alors comme par magie.
C'était À propos, présenté par Anna Orouz.
The Voice of Hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale avventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
et bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Nous accueillons une nouvelle fois aujourd'hui Philippe Délay. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Nous poursuivons notre série et cette découverte des prophéties qui, données dans l'Ancien Testament, se sont réalisées au 19e siècle pour l'une d'entre elles en tout cas. Et justement, nous détaillons ces événements survenus à cette période suite à ce qui semble être une mauvaise compréhension d'une prophétie. Le retour de Jésus avait été annoncé le 22 octobre 1844, mais puisque nous sommes là aujourd'hui, c'est bien qu'il n'est pas revenu. À cette époque, une amère déception a alors saisi tous les croyants qui, sur toute la surface de la terre, attendaient ce second avènement. La conséquence a été l'abandon de la foi pour beaucoup d'entre eux. Pourtant, la Bible n'a pas failli et l'histoire, par la réalisation des prophéties bibliques, nous a démontré sa fiabilité. Donc, Philippe, pouvons-nous dire qu'il s'agit bien d'une mauvaise compréhension? Et dans ce cas-là, où est-ce que cette mauvaise compréhension s'est-elle faite?
Eh bien Gaël, ceux qui étudiaient avec sérieux la parole de Dieu savaient que celle-ci ne pouvait faillir. Et comme vous l'avez souligné, les prophéties bibliques ont été confirmées par l'histoire, avec un H majuscule, de notre humanité. La date 457 avant Jésus-Christ était le point de départ de la prophétie des 70 semaines que nous avions évoquées. Et celle-ci s'est réalisée à la perfection. Et cette date est le même point de départ pour les 2300 soirées matin. Donc, obligatoirement, il devait y avoir une erreur dans l'incompréhension et non dans l'aboutissement de la prophétie. Mais où était cette erreur? Alors, à votre avis, quel a été le comportement des étudiants de la parole?
Je dirais de rechercher dans la Bible un éventuel détail qui leur aurait échappé.
Eh oui. Un petit groupe d'étudiants ne s'est pas laissé décourager par ces événements. Tout comme ils l'avaient fait lors de la découverte des prophéties, ils se sont mis à genoux et ils adressèrent à Dieu de ferventes prières pour qu'il puisse les éclairer. Dieu nous a donné des promesses. Prenons celle du prophète Jérémie dans son chapitre 33, verset 3. Je vous lis. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et rappelez-vous aussi celle de Daniel dans sa prière pour connaître le songe de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Au chapitre 2, verset 23, il dit « Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. » Ces étudiants se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Et le prophète Amos, chapitre 3, verset 7, conforte cette promesse. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne cache rien. Dieu désire un partenariat avec ses enfants. Il se révèle aux gens sincères qui s'humilient dans la prière et qui sont à la recherche de la compréhension de sa parole. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié, nous dit le chapitre 8, verset 14 du livre de Daniel. Donc, ce petit groupe reprend ses études, et ses études amènent à la conclusion que rien dans les Écritures ne soutenait que la terre serait le sanctuaire. Une idée qui s'était établie dans leur esprit, sans qu'elle ait été comparée aux Écritures. Et cela a eu pour conséquence le désappointement. Mais Dieu a répondu à leur prière. Dieu a guidé ses étudiants vers l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 du Nouveau Testament. Celui-ci consacré au sanctuaire, ainsi que le chapitre 14 du livre de l'Exode et le chapitre 27 de celui de Lévitique dans l'Ancien Testament. De ce fait, ils ont redécouvert des textes précis concernant le sanctuaire, sa nature, ses services, ses rites. Et ils ont découvert un enseignement incroyable concernant le ministère de Jésus sur la terre et dans le ciel. En réalité, c'était une vraie mine d'or. Et si Dieu donne autant d'informations, c'est que forcément, cela doit être important.
En fait, en termes de prophétie, nous constatons à nouveau l'importance de chaque mot.
Eh oui, je vous l'ai déjà dit lors de précédentes émissions. L'étude des prophéties est un vrai travail d'investigation et nous ne pouvons vraiment rien laisser au hasard. Mais nous avons un atout extraordinaire, le Saint-Esprit, celui qui a inspiré les prophètes. Si nous demandons sa présence, il nous éclaire sur la compréhension des textes difficiles.
Si je saisis bien le sens de vos propos, le sanctuaire de l'Ancien Testament serait donc la clé de la compréhension de cette prophétie. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui a été mal compris en 1844 ?
Alors, je ne souhaite pas juger le travail de ces étudiants, merveilleux pour nous aujourd'hui, 150 ans plus tard. Et en opposition, le malheur de tous ces étudiants de la prophétie qui ont dû affronter ce gros désappointement. Et puis, je vous le rappelle, si nous avions été à leur place, nous aurions fait les mêmes erreurs. À ce stade de notre émission, nous sommes obligés de présenter le sanctuaire terrestre avec tout le rituel qui s'y rattache et le sanctuaire céleste qui est son modèle. Sinon, nous ne pourrions pas saisir ce qui s'est passé en 1844. Et de plus, le sanctuaire nous permet de comprendre ce que Jésus ressuscité, donc vivant, qui est près de son Père, fait aujourd'hui pour nous dans le ciel. Et encore une fois, Dieu ne nous a pas laissés ignorants même sur ce sujet.
Donc nous allons aborder le sujet de deux sanctuaires, un sur la terre, l'autre dans le ciel, et c'est ce qui nous donnera l'explication de ce désappointement ?
Oui, mais alors ne croyez surtout pas que ce soit une excuse pour tenter de couvrir un raté, si je peux me permettre. Dans la Bible, tout ce que nous devons savoir pour notre bien est écrit d'avance parce que Dieu nous guide de cette façon. Alors, qu'est-ce que ces sanctuaires ? Et à quoi servaient-ils ? Et tout d'abord, il ne s'agit en aucun cas d'une invention humaine. Remontons, si vous le voulez bien, un peu plus de 3000 ans en arrière, et écoutons ce que le Dieu dit à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, à partir du verset 8. « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu dit à Moïse qu'il veut habiter parmi les hommes. Il dit à Moïse « Fabrique une tente et je camperai avec vous, je serai présent parmi vous. » Ça, c'est extraordinaire.
Que ce n'est pas une invention humaine. Pourtant, il demande à Moïse de faire la tente.
Je vous fais un bref rappel de la situation. Dieu dit à Moïse d'aller en Égypte pour libérer son peuple, qui durant plus de 400 ans est devenu esclave des Égyptiens. Et vous connaissez ce récit cité dans les premiers chapitres du livre de l'Exode concernant la sortie d'Égypte après toute une série de fléaux qui ont fait plier le Pharaon et qui ont permis cette sortie. Certainement que vous connaissez également la traversée de la mer Rouge avec la disparition totale de l'armée du Pharaon qui les avait envoyés à leur poursuite. Vous connaissez aussi certainement la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée le jour, de la manne tombée du ciel qui servait de nourriture à tout le peuple. Les Hébreux se trouvent dans le désert du Sinaï et Dieu veut s'occuper d'eux. D'ailleurs, il leur donne la manne, cette nourriture du ciel. Il leur donne l'eau du rocher. Mais il y a un gros problème à traiter, celui de l'idolâtrie et surtout celui du péché. En effet, durant plus de 400 ans, les Hébreux ont été confrontés aux dieux égyptiens. Et ça, ça laisse des traces. Dieu leur a prouvé qu'il est vivant, il a déjà démontré sa puissance, une puissance qui surpasse celle de toutes les idoles en pierre ou autres, comme je vous l'ai cité tout de suite. Et maintenant, ce Dieu vivant veut habiter, le mot hébreu est même tabernaclé, avec eux. Alors Dieu donne à Moïse un plan extrêmement détaillé de ce tabernacle ou de ce sanctuaire.
Vous voulez dire que c'est Dieu lui-même qui donne les plans de ce sanctuaire ?
Et plus que cela encore. Il donne non seulement son orientation et les cotations extrêmement précises du site, mais de quels matériaux celui-ci sera construit ? De bois, d'or, d'argent, de bronze ? Les types de tissus et les broderies, les couleurs et tous les détails de chaque élément qui le compose ? Et vous retrouvez toutes ces précisions dans le livre de l'Exode à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40. Mais écoutez ces textes du Nouveau Testament cités du livre aux Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ce texte atteste le verset 9 du chapitre 25 du livre de l'Exode où Dieu dit à Moïse « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. »
Donc, pour résumer, Philippe, nous avons établi que la date de la prophétie était juste. Mais la raison de la mauvaise compréhension de la prophétie est due à la méconnaissance du sanctuaire. Les Écritures nous orientent sur cette tente, ces sanctuaires, l'un terrestre, l'autre céleste. Alors, Philippe, si vous le voulez bien, lors de notre prochaine émission, nous pourrions découvrir ce qui se passe dans ces sanctuaires ?
Oui, avec plaisir, mais en attendant, je vous invite à garder à l'esprit qu'aujourd'hui encore, Dieu veut habiter parmi les hommes.
Eh bien, merci Philippe, et à très bientôt.
À très bientôt, merci Gaël, au revoir.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Notre émission est maintenant terminée. C'était La Voix de l'Espérance sur la Radio Mondiale Adventiste. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.